Vous écoutez France Culture.
Alain Wedsten, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Marcelin Plenet, qui publie L'étendue musicale chez Gallimard dans la collection L'Infini. C'est une fiction. J'entends ma voix qui court sur les ondes. Elle traverse la campagne, l'étendue nocturne, la fraîcheur et le brouillard sur la mer. D'où vient-elle? Comment est-elle diffusée, cette voix? La voix qui, dans sa présence même, demande d'où elle vient. Ça fait plus d'un demi-siècle, Marcelin Plenet, que vous avez publié votre premier livre, Provisoires amants des nègres, au Seuil, c'était en 1962.
Oui, oui.
Depuis, il y en a eu beaucoup, du même auteur, dans le dernier livre paru, L'étendue musicale, occupe deux pages serrées. Mmh. J'avais compté les titres, j'ai oublié.
Ça fait plus de 30, à mon avis.
Ah non, beaucoup si, plus, si. Beaucoup plus.
Oui, près de 40 sans doute, oui.
Ouais.
Quelque chose comme
on
ça.
On pourrait dire même une soixantaine, en comptant
ceux qui ne figurent pas dans la liste du même auteur, voilà. Oui.
Et c'est l'année suivante, en 63, que vous avez commencé à publier dans une collection dirigée par Philippe Solers, à l'époque telle qu'elle, Paysage en deux, suivi de Les lignes de la prose. Mm-hmm. Et avec Solers, c'est une grande fidélité, puisque le livre qui paraît aujourd'hui, L'étendue musicale, est accueilli par lui dans la collection qu'il dirige maintenant, chez Gallimard, L'Infini.
En effet, et nous continuons à travailler ensemble, puisque je travaille avec lui à la rédaction de L'Infini, depuis que L'Infini existe. Mmh. Et peut-être jusqu'à la fin de nos jours réciproques, je ne sais pas lequel des deux mourra le premier, peut-être moi qui suis le plus âgé.
Et la revue, elle, ne peut pas mourir.
La revue n'a pas de raison de mourir. Elle a un relatif succès et c'est une des meilleures revues de chez Gallimard.
Mais il y a des revues, des très bonnes revues de chez Gallimard qui quelquefois
disparaissent,
donnent l'impression de disparaître sans disparaître vraiment.
La NRF par exemple,
voilà.
Qui devient mensuelle et qui devient de plus en plus difficile à lire.
Qui devient trimestrielle.
Trimestrielle, oui. Ouais.
Alors j'évoquais ces premiers titres des années 60 car je crois bien que c'est dès le début de ces années 60 que vous avez découvert Venise.
Peut-être même un petit peu plus tôt, je crois que c'est à la fin des années 50. Je vais pour la première fois en Italie avec un curé, le curé de Saint-Séverin, qui m'emmène à Rome, qu'on fait un parcours ensemble dans sa traction avant, qui me fait visiter les lieux saints de l'Italie. Mmh. Je le laisse à Rome, je reviens en France, et deux ans après, je retourne en Italie, via l'Autriche, et j'arrive à Venise. Et sans traction avant, cette fois-ci par le train. Et je suis un peu déçu parce que lorsque j'arrive sur la place Saint-Marc, le grand air de l'époque, c'était Tout ça ne vaut pas, un clair de lune à Maubeuge. Ça m'a énormément déçu. J'ai pensé que je ne retournerais jamais à Venise. puis j'ai commencé à visiter un peu Venise et j'ai bien sûr visité l'Accademia, ce que font tous les gens qui vont à Venise pour la première fois, ce que j'ai revisité de nombreuses fois depuis. Et à partir de ce moment-là, je suis revenu régulièrement à Venise.
Il y a des gens qui détestent Venise, qui écrivent même pour dire leur détestation,
oui,
de façon très polémique. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Venise ?
Non, cette détestation.
Les gens qui détestent Venise, c'est leur problème, c'est pas le mien. C'est vraiment leur problème. C'est-à-dire que, vous savez, Venise, il y a un vrai problème. C'est que c'est une ville d'eau, c'est une ville sur l'eau, qui a cette particularité, en effet, d'être une des rares villes historiques qui n'est pratiquement pas changée. C'est-à-dire, c'est très difficile de changer l'eau, en effet, l'eau est partout. Venise, vous savez, est composée d'îles diverses, avec les canaux entre les îles, et c'est très difficile de... Si on n'aime pas la lumière sur l'eau et la réverbération de l'eau sur les murs, on n'aime pas Venise. À ce moment-là, on aime plutôt une ville du sud, Naples, par exemple.
Mais on voit bien que, pour vous, l'enjeu était des plus importants, puisque dans l'étendue musicale, vous écrivez que c'est à Venise que vous avez eu votre première leçon de présence,
oui,
à vous-même,
absolument,
et à l'existence.
Oui. Alors, vous savez, sur Venise, je crois que ce livre, c'est le sixième livre que je consacre à Venise. J'en ai publié l'un des deux, le deuxième d'ailleurs a été publié par vous aux éditions Mecht. C'était le livre sur Giorgione. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Si, je me souviens.
Qui existe toujours.
Il m'arrive de me souvenir de mes bonnes actions.
Moi, je ne les oublie pas. Donc, voilà, c'est le sixième livre sur Venise. Et Venise a cette particularité que Montaigne définit assez bien. Il faut se réserver une boutique toute nôtre, toute franche, en laquelle nous établissons notre vraie liberté et principale retraite de solitude. Venise, alors paradoxalement, parce que c'est une ville qui est envahie par les touristes, évidemment, on ne peut pas se déplacer à Venise sans croiser des groupes de touristes. Paradoxalement, c'est une des villes où je me sens très, très, très tranquille et vraiment le plus seul. Je ne connais personne à Venise, pratiquement personne.
Alors j'évoquais pour commencer les premiers livres de poèmes.
Oui.
Je faisais un lien avec la découverte de Venise. Et là, vous écrivez que c'est quasi logiquement que la poésie conduit à Venise.
C'est-à-dire, c'est réciproque, c'est pas la poésie qui conduit à Venise. Si on est un tant soit peu poète ou un tant soit peu écrivain, lorsqu'on traverse Venise, on est évidemment envahi de sensations les plus diverses. Et les plus diverses et même les plus contradictoires. C'est-à-dire, on est envahi par les sensations de bruit. Le bruit à Venise est tout à fait particulier, aucune ville n'est comme ça. Immédiatement, vous avez le bruit des cloches, d'ailleurs, qui s'impose, parce que le nombre d'églises à Venise est considérable. Vous avez le bruit des cloches, vous avez le bruit des muettes, vous avez le bruit de l'eau sur le quai. Donc vous avez dans l'oreille immédiatement une sorte de symphonie vénitienne qui se met en place. Et si vous êtes sensible à la musique, et si vous êtes sensible aussi, comme je le suis, à la vue, à la vision, à ce qu'on peut voir, les deux se réunissent et produisent en effet des sensations tout à fait inédites et très romanesques.
De la même façon que la poésie.
Absolument.
Ce que vous avez mis un certain temps à découvrir, d'après les révélations que vous faites dans l'étendue musicale, à découvrir que la poésie vous donnait un certain type de fiction que vous avez envie d'appeler la fiction du vivant.
Absolument. Et c'est le propre de ce livre. Il y a une fiction qui parcourt le livre. C'est la suivante. Je suis censé écrire un essai sur Palladio, que je n'ai pas envie d'écrire, mais que je connais très bien Palladio, puisque l'appartement que j'habite est à deux pas d'une des grandes façades de Palladio à Venise, San Francesco della Vigna. Donc lorsqu'on me demande d'écrire un essai, je propose immédiatement Palladio.
Mais ça, c'est vrai, on vous l'a demandé, l'essai, ou c'est...
Non, on m'a demandé d'autres essais, mais jamais sur Palladio. Même si d'ailleurs, certains de mes livres ont été présentés à l'Institut culturel italien, il s'agissait de rimes, et d'un volume de mon journal qui s'appelait L'Amour, je crois. Et à l'Institut culturel italien, a entouré de photos de Palladio. Mais dont de Palladio, on m'a jamais demandé.
Donc il y a de la fiction dans ce livre qui se présente pourtant comme une sorte de journal ou de récit, mais qui est sous-titré roman. Hein, l'étendue musicale, roman. Et roman, c'est souvent que vous mettez ce mot-là sur la couverture de livres qui ne ressemblent pas à première vue à des romans. Hein. C'est le cas pour L'étendue musicale, oui. Mais c'était déjà le cas pour Chronique vénitienne et pour Le savoir-vivre.
Le savoir-vivre, c'était un journal. Le savoir-vivre, c'est le journal que j'ai tenu lorsque j'ai eu cette opération du cancer. Oui. Je m'en suis sorti très bien parce que j'ai immédiatement, dès le lendemain, commencé à tenir l'écrit de ce que je pensais, ce que je ressentais. Mmh. Mais alors, le savoir-vivre, vous savez, le problème du romanesque, c'est qu'il est partout où on veut bien le trouver. Et je le trouve un peu partout. C'est-à-dire, ouais, je me balade dans Venise, j'ai l'impression de me balader dans un roman.
Vous l'écrivez que votre vie est un roman, oui, oui, dont la circonférence est partout, absolument, et le centre,
exactement,
nulle part.
Hein,
vous le dites même à deux ou trois reprises dans le livre.
Pour définir Venise, parce que c'est aussi ma définition de Venise. Le centre est partout et la circonférence est nulle part.
Hmm. Alors, il y a une dizaine d'années, vous aviez intitulé un de vos livres « Le Pontos »,
oui,
publié dans la même collection « L'Infini » chez Gallimard. Bon, « Pontos », ça vient du grec, et ça désigne, vous me direz si je me trompe, un chemin qui n'est pas simplement un espace à parcourir d'un point à un autre, et ça désigne même d'abord le « gué », c'est-à-dire le passage ouvert en un point d'eau.
Mmh.
Et aujourd'hui, à ce mot « pontos », vous préférez le mot « étendu ».
L'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que celui qui emprunte le pontos, puisque c'est un chemin qui n'est parcouru par personne, a forcément accès à une étendue qui n'est qu'à lui. C'est tout le problème. C'est le problème de la singularité du discours et même de la parole. C'est-à-dire à partir du moment où la parole est singulière, ce qu'elle produit est sans limite. Et comme ce qu'elle produit trace un chemin, et ce chemin est bien sûr ouvre sur du sans limite.
Mmh.
C'est-à-dire que comme la collection le dit bien sur l'infini.
L'infini. Oui. Et c'est ce qui arrive quand on a le sentiment de dire et de vivre encore. En CORPS.
Oui, alors vous savez, il y a deux problèmes là. Vous avez cité le premier qui apparaît dans le livre que j'ai écrit sur mon opération. Mmh. Le second, c'est un AVC, où j'ai été pendant 3 jours dans un coma total, dont je ne garde rien, et qui m'a maintenu 6 mois à l'hôpital, plus 1 an de rééducation. Donc on a l'impression d'être ressuscité à part ça. Lorsque j'ai consulté, à la suite de cet AVC, lorsque j'ai consulté un médecin que Philippe Solers et Julia Kristeva m'avaient conseillé, et que je lui ai dit ce que j'avais vécu, il m'a dit, grosso modo, vous êtes un miraculé. À partir de ce moment-là, on a une toute autre façon de vivre et de se penser soi-même, et comme âme et comme corps.
Mmh. Et on peut aller à Venise respirer l'étendue musicale, parce que la musique respire dans le nom même de Venise.
Absolument. Ça, je crois que c'est pas de moi. Je pense que c'est de Nietzsche. Que la musique respire dans le nom même de Venise. Ce livre est plein de citations qui ne sont pas entre guillemets, vous savez. C'est mon truc depuis très longtemps.
Vous êtes une pivoleuse.
Absolument, on peut dire ça comme ça.
À Venise, où l'étendue entre en représentation. Mmh. Mais ça, c'est de vous, ça ?
Oui et non.
Non, vous ne vous souvenez plus ?
Non, je me souviens très bien que l'étendue entre en représentation à Venise. Parce que si vous regardez la façon dont se distribue Venise, vous avez les calais et vous avez les piazzas. Or, le propre des Vénitiens, c'est que chaque soir, vers 5 heures, ils descendent sur la piazza et qu'ils discutent entre eux. Il y a les touristes qui sont là, mais ils s'occupent des touristes, ils discutent entre eux. Et du coup, chaque piazza est un petit théâtre. Donc en effet, chaque piazza, Venise en elle-même, est une sorte de multiplicité de petits théâtres et de multiplicité théâtrale. Voilà.
Et puis il y a un personnage qui règne secrètement sur Venise, alors revenons à Nietzsche, c'est Dionysos.
Oui, absolument. Alors ça, c'est tout le problème. Si vous voulez, c'est tout le problème d'un certain rapport à l'écriture qui passe par la sensation. C'est-à-dire que très très vite, la sensualité devient une sorte d'érotisme Et tout devient érotique. En effet, à partir du moment où tout devient érotique, Dionysos est forcément présent. Mmh. Et présent, mais présent de façon tout à fait singulière et tout à fait présent pour moi. Mmh.
C'est-à-dire la musique, la danse.
Exactement. Le théâtre, la musique, la danse. Mmh.
La musique n'est pas seulement présente dans l'air ou dans les lettres de Venise. Elle est la musique de Vivaldi, par exemple.
Elle est la musique de Vivaldi. Elle est la musique baroque. C'est une des choses que j'aime beaucoup à Venise, c'est qu'en effet, on traverse forcément une ville baroque et une musique baroque. Mmh. C'est Vivaldi, c'est Monteverdi et les suivants de l'un et l'autre qui sont plus ou moins connus, plus ou moins. Et bien sûr, l'appartement où je descends à Venise a une discothèque très considérable où je trouve tout ça, où je l'écoute sans fin dès que j'y suis. Mmh.
Vous citez d'ailleurs une lettre de Monteverdi écrite à Alessandro Striggio à Mantoue. Je dis tout d'abord, d'une manière générale, que la musique désire régner sur l'air et pas seulement sur l'eau.
Mmh. Autrement dit, lorsqu'on est à Venise, on a la musique qui est sur l'eau, mais on s'aperçoit que la musique, en effet, est dans l'air un peu partout. Et qu'elle enveloppe celui qui se trouve à Venise, à condition qu'il s'y trouve pour des raisons un peu de sensibilité, pas de tourisme.
Mmh. L'étendue musicale, alors, puisque c'est le titre que vous avez retenu pour ce dernier livre, l'étendue musicale de Venise, c'est aussi, et vous le montrez bien, même si vous n'écrivez pas une monographie sur Palladio, c'est aussi celle de son architecture.
Absolument. Vous avez trois grands monuments de Palladio à Venise, San Giorgio, le Redentor et l'église tout près de laquelle j'ai l'appartement. Mmh. Et donc San Francesco della Vigna. Or l'appartement à l'église, il y a pas 100 mètres. Et je peux sortir. Lorsque je sors de l'appartement, évidemment, j'entre dans l'église et j'admire la façade de Palladio qui est tout à fait présent. L'un des gros problèmes de Palladio, l'une des grandes particularités de Palladio, c'est qu'il a peint, il a architecturé des églises et des villas, et que le propre de ces villas palladiennes, c'est d'être tout à fait habitable. J'en ai vu quelle ville, c'est pas cette fois-ci, mais lors d'un de mes voyages, j'ai fait un tour des villas de Palladio. C'est tout à fait, par exemple, la villa Mazère est une pure merveille. Mmh. On a l'impression qu'on entre dans un lieu habitable de représentation. Ce sont des lieux de représentation. Ce sont des villas de camp. Vous savez, c'était des villas pour les patriciens vénitiens qui voulaient aller à la campagne. Donc c'était, en grosso, des villas campagnardes. Mais ce sont des lieux de représentation tout à fait. Dans la villa Mazère, vous avez des toiles de Véronèse, de toute l'école de Véronèse. Et vous entrez dans une salle et vous avez tout ça autour de vous. C'est fabuleux, c'est tout à fait fabuleux.
En vous écoutant, je me dis, mais pourquoi ne l'écrit-il pas, cette monographie de Palladio ? Parce que vous avez l'air de connaître un peu le sujet, quand même.
Je connais pas mal, oui. Mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment éditable, ce que j'écrirai sur Palladio. Mmh. Mais enfin, en tous les cas, je le ferai peut-être un jour. Mais enfin, vous savez, il y a donc les livres qu'on a cités, et puis il y a aussi une chose qui est déjà parue et qui est en train de paraître, ce sont mes journaux, dont j'ai fait don à la bibliothèque Jacques Doucet. Et il y a 50 volumes de journal inédits. Il y en a un qui a été publié il y a un an ou deux, qui s'appelait « Nouvelle liberté de pensée », où il est question de Venise. Et dans tous, il est question de Venise, puisque je les tiens aussi à Venise.
Mmh. Il y a même un jeune éditeur qui a créé sa maison
exprès pour les publier.
Pour vous publier.
C'est un garçon très sympathique qui s'appelle Augustin de Butler et qui a été un de mes élèves lorsque je professais à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, que j'ai rencontré un peu plus tardivement, lors d'une soirée, chez une amie, et qui m'a dit qu'il admirait beaucoup ce que je fais, qu'il aurait aimé publier des choses. Ben, je lui ai dit, voilà, si vous voulez, il y a 50 volumes à publier. Et il en a publié un, il va en publier un autre. Mmh. Il a aussi republié le volume que j'avais fait sur le voyage en Chine, avec des photographies. Et j'ai eu récemment, ce livre circule, puisque j'ai eu récemment des nouvelles d'une universitaire de Montpellier, qui venait de l'acquérir, et qui s'inquiétait de la première édition, qui, elle, a tout à fait disparu.
Mmh. Et ce jeune homme ne vous a pas commandé une monographie de Palladio?
Absolument pas.
En tout cas, cette fiction vous a permis d'inventer un personnage féminin, mm-hmm. Sophie, qui vous rappelle souvent l'existence.
Absolument.
Du contrat à honorer.
Qui est sur le modèle d'une de mes amies, mais pas vraiment tout à fait identique, que j'avais connue aux éditions du Seuil, et qui était très chiante de ce point de vue, qui ne cessait de me mettre devant le fait que j'avais signé des contrats pour telle et telle chose et que je devais y faire face. Mmh. Or, j'ai signé un certain nombre de contrats auxquels je n'ai jamais fait face, bien entendu. Donc, un contrat sur SAD et un contrat sur VIA.
Mmh. Et là, il vous arrive de lui mentir à cette jeune femme.
Absolument. C'est une chose que je fais souvent quand je veux avoir la paix.
En disant que vous travaillez alors que vous ne travaillez pas.
Absolument.
À Venise, c'est très difficile de travailler.
Pas pour moi. Non, ça dépend de travailler.
Travailler, c'est écrire, par exemple, un livre sur un sujet.
Voilà, sur un sujet obligé.
Voilà.
Tandis que là, lorsque je suis à Venise, j'écris mais sur ce qui me passe par la tête.
Vous dites que lorsque vous êtes à Venise, vous ne savez rien faire d'autre que de vous vivre à Venise.
Voilà.
Ça veut dire quoi, se vivre à Venise ?
Ça veut dire se mettre en situation d'oublier tout le reste. Et y a rien, à Venise, il n'y a rien de plus facile. D'où mes récents voyages, mes nombreux voyages à Venise. Dès que j'arrive à Venise, j'oublie tout le reste. C'est comme si le reste n'existait pas. Mmh. Excepté que j'emmène évidemment, parfois, là, dans ce livre, il y a des fiches que j'ai tenues pour d'autres livres. Il y a même des fiches, je pense, sur le... Il y a des chiffres sur la philosophie, des fiches sur le... sur l'islam, des choses comme ça que je tenais et que j'emmenais à Venise et que j'ai mis dans le livre.
Mmh. Vous travaillez beaucoup avec des fiches ?
Oui, parce que j'ai très peu de mémoire. J'ai très peu de mémoire. Je suis en direct sur mes sensations, mais pas du tout en direct sur ma mémoire. Donc la mémoire est toujours différée chez moi.
Alors, vous pouvez travailler vos fiches, mais vous avez aussi beaucoup de monuments à visiter ou à revisiter, parce que vous aimiez bien revenir sur aux endroits que vous connaissez. Et notamment les églises de Palladio, qui lui-même se disait engagé à habiter religieusement.
Et voilà, exactement.
Les espaces qui lui étaient impartis.
Voilà, c'est là où les villas de Palladio ont un caractère qu'aucun autre architecte n'a donné à ces villas, c'est qu'en effet, elles sont habitables religieusement. C'est une espèce de religion de l'habitat. C'est si beau que c'est une espèce de religion de l'habitat. Je ne connais pas d'exemple dans le monde qui puisse rapprocher des villas de Palladio.
Et cette religion, elle vous habite également ?
Absolument. C'est la mienne.
Hein ? Vous dites que vous allez à la messe pratiquement tous les jours.
Pas vraiment tous les jours, mais j'y vais très souvent. C'est à deux pas, vous savez. C'est à deux pas et c'est la messe du matin est pratiquement la plus agréable parce que l'église est pratiquement vide. Il y a quelques curés, il y a quelques bonnes sœurs parce qu'il y a tout près de l'église un couvent de bonnes sœurs. Et à part ça, il n'y a pratiquement personne. Je suis le seul étranger.
Mmh. C'est un peu l'exemple de Giotto que vous suivez là. Je cite Giotto parce qu'on a réédité récemment aussi votre essai sur Giotto qui avait paru chez Azan il y a déjà longtemps.
Ça a été réédité dans une collection beaucoup plus agréable, beaucoup mieux faite, avec beaucoup plus d'illustrations. Et c'est un livre auquel je tiens beaucoup parce qu'il y a deux ou trois choses dans ce livre que je crois aucun historien n'a jamais relevé, notamment en ce qui concerne le purgatoire. C'est-à-dire que pour Giotto, en effet, le purgatoire, c'est un lieu nouveau. Avant le purgatoire, tout est binaire, c'est l'enfer ou le paradis. Et le purgatoire arrive peu de temps avant que Giotto ne commence à peindre et donne un troisième terme. Et c'est l'essayiste Le Goff qui dit qu'avec le purgatoire arrive dans l'Occident l'invention de la justice. En effet, dans le purgatoire, on discute du bien et du mal. Et selon la discussion, on va au paradis ou on redescend en enfer.
Ouais, vous citez Le Goff dans ce livre sur Giotto, Le Goff qui vient de disparaître. Vous citez aussi André Chastel. Mmh. Hein, vous appuyez sur les historiens solides de la discipline. Alors, quant à Giotto, il figure au purgatoire de Dante.
Non, absolument. Alors vous avez une connexion assez bizarre, c'est qu'en effet, vous avez en même temps et Giotto et Dante qui établissent le purgatoire, d'une certaine façon. Et Dante met Giotto dans le purgatoire avec Cimabue. Je me souviens plus exactement du vers de Dante, mais Cimabue avait la célébrité, maintenant c'est Giotto qui a le cri. Et ça, c'est Dante. Alors, Dante, évidemment, est très un admirable grand poète. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. C'est pas... Ouais.
Traduit par votre amie Jacqueline Risset.
Absolument. Et elle va traduire récemment un autre livre de Dante qui s'appelle Les Rimes, chez Flammarion, qui devrait paraître à l'automne.
Dans votre Giotto, Marcellin Plenet, vous finissez par dire que, avec cette œuvre, l'univers chrétien n'est plus celui des craintes et tremblements.
C'est bien vrai.
Mais celui d'une noble adaptation de convenance entre l'homme et son Dieu.
Oui, absolument. C'est le propre du purgatoire. C'est le propre de l'invention du purgatoire, qui est une invention des franciscains. C'est-à-dire, c'est les franciscains qui commencent à défendre le purgatoire. Et c'est un évêque franciscain qui discute lors d'un concile du purgatoire avec l'église de l'église grecque, qui d'abord le reconnaît, ensuite ne la reconnaît plus.
Et quand vous venez à Venise, qui vous arrive au moins deux fois par an pour,
peut-être trois fois.
Des séjours...
15 jours.
Un peu longs, vous n'êtes pas au purgatoire.
Non, c'est comme si j'étais au paradis.
Vraiment ?
Absolument.
C'est-à-dire que c'est un paradis que vous venez retrouver.
Ah, voilà, c'est ça. D'une certaine façon, on peut le dire comme ça. C'est un paradis que je sais là. Pour moi, je sais que là, il y a quelque chose qui se passe de l'ordre du paradis. C'est-à-dire de l'ordre de la liberté totale. Oui, mais vraiment totale. Y compris religieuse.
Vous venez saluer ce que vous aimez.
Exactement. Je viens me retremper et vivre dans ce que j'aime et le saluer par la même occasion. D'où l'écriture d'ailleurs, parce que j'écris presque automatiquement lorsque je suis à Venise.
Vous parlez d'une vision divine à Venise.
Oui, il y a de ça. Vous savez, il y a une place de Venise qui porte un nom assez bizarre. Elle est dans le livre, mais je l'oublie. Que j'oublie. Mais qui est tout proche du paradis, quelque chose comme ça. Il y a un quai aussi qui porte ce nom-là. Donc je vais régulièrement sur cette place et sur ce quai, et je m'assois et j'ai l'impression qu'en effet, c'est très bien nommé.
Et c'est pas toujours la même chose ?
Non, ça n'est jamais la même chose. C'est un des problèmes de Venise, c'est que ça n'est jamais la même chose. C'est que je peux y retourner tant que je veux, je sais que ce ne sera jamais la même chose.
Et que tout est possible ?
Et que tout est possible, en effet. C'est une ville qui s'ouvre. C'est-à-dire, si on n'y est pas pour des raisons... trivial, c'est une ville qui s'ouvre et qui s'offre constamment de nulle part. C'est-à-dire, vous prenez une calée sombre et vous arrivez sur une piazza ensoleillée. Immédiatement, vous voyez bien que vous avez un rapport visuel très, très fort, immédiatement. Vous regardez les églises et vous apercevez qu'elles sont en marbre, qu'elles reposent sur l'eau. Venise est plein de paradoxes de cette sorte. Et en même temps, lorsque vous êtes assis à la terrasse d'un café, sur le Zattere, par exemple, vous entendez les cloches de Venise qui sonnent et qui se répercutent un peu partout, parce qu'il y a un nombre de clochers et qui ne sonnent pas tous en même temps, les uns après les autres. Donc ça aussi, c'est musicalement, dans l'oreille, on a l'impression qu'à ce moment-là, l'espace, en effet, s'ouvre.
Mais chacun doit y montrer du sien, c'est-à-dire accepter l'idée d'accompagner le spectacle qui s'offre à lui.
Absolument.
C'est ce qui vous arrive, par exemple, lorsque vous allez visiter au musée Correr l'exposition des Bassano.
Oui.
Jacopo, en particulier, chez qui Tintoret a fait ses classes.
Oui, il me semble que ce soit ça, oui. Donc, là, vous savez, il y a les Bassano, mais il n'y a pas seulement les Bassano. Je ne sais pas s'il y a Rosalba Carriera. J'ai vu à Venise, pour la première fois de ma vie, j'avais vu avant des tableaux un peu partout de Rosalba Carriera, mais très isolé. Pour la première fois de ma vie, lors d'un séjour à Venise, il y avait une rétrospective Rosalba Carriera, avec tous les pastels de Rosalba Carriera. Et ça, on est en plein 18e. Vous savez, vous connaissez le mot des Goncourt sur le 18e à propos de Quentin Latour. Ils vont à Saint-Quentin pour voir les Quentin Latour. Et il dit, lorsqu'on entre dans la salle des Quentin Latour, on a l'impression que le 18e siècle qui bavardait se tait. Et c'est à peu près le problème ce qu'on ressent quand on visite Rosalba Carriera, qui est peut-être plus intéressante que Bassano. Parce que les Bassano sont sombres. Rosalba Carriera est tout à fait 18e. J'ai d'ailleurs chez moi une petite gravure d'époque d'un autoportrait de Rosalba Carrera.
Et vous, qui avez été lié à la découverte de toutes ces avant-gardes dans les années 70, qui avez défendu particulièrement la peinture américaine,
oui,
qui se faisait alors, aujourd'hui, votre plaisir, vous le trouvez dans des expositions comme l'exposition des Bassano.
Non, mais alors même je défendais cette peinture américaine, je connaissais Venise et je connaissais l'art vénitien et j'admirais l'art vénitien. La peinture américaine a cette particularité, en effet, d'être très loin de l'art vénitien, aussi loin que possible, comme l'école de Paris, si on peut dire. Sauf que dans la culture française, vous avez deux peintres qui sont en effet très proches de Venise. L'un, c'est Picasso, l'autre c'est Matisse. Lorsque Matisse fait sa chapelle, vous savez, il va spécialement à Padoue pour voir les Giotto. Donc c'est, tout ça est très très lié, c'est très inévitablement lié. La peinture américaine, je suis très réservé sur un certain nombre d'artistes américains que j'ai défendus, pas sur tous. Il y en a deux en tous les cas qui me semblent tenir bien le coup. C'est Motherwell, qui était un très très bon ami et dont j'ai eu un certain nombre qui a illustré d'ailleurs l'amour vénitien avec une gravure et qui m'a peut-être donné une cinquantaine de gravures sur lesquelles j'ai écrit une monographie qui est aujourd'hui épuisée, qui est impossible à republier. Et c'est Bishop qui commence à avoir beaucoup de succès et qui a récemment une exposition au Musée d'art moderne de Chicago.
Mais pour revenir à l'étendue musicale, à Venise, le maître mot, finalement, c'est le mot énergie. C'est l'énergie à Venise qui anime votre univers, ce que vous appelez le courant même de la vie.
C'est-à-dire, pour être présent à Venise, il faut se détacher de tout ce qui est trop comptable ou trop lié à l'actualité. Et inévitablement, ça implique un investissement considérable. Un investissement de sensations considérables, parce que ce sont les sensations éprouvées. Donc immédiatement à Venise, la masse de sensations est une masse énergique inévitablement. Et en effet, on peut dire de Venise que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, lorsque vous parliez de
Dionysos.
Ouais. Immédiatement, on est dans un espace érotique et quasi-libertin, au sens noble du mot libertin. C'est un lieu de liberté. C'est un lieu où la liberté est à elle-même sa propre sensation.
L'étendue musicale, le livre de Marcelin Plenet, est publié chez Gallimard. Du jour au lendemain, Julien Doumacq, Anne Franchini, Didier Pinault, Alain Weinstein, bonsoir.